Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Les images de la Trinité, comment parler du mystère ? Dans notre expérience humaine, nous savons un peu ce que sont des relations binaires. Les relations entre les enfants et leurs parents, les relations entre un frère et une sœur, et bien sûr le sentiment amoureux qui rapproche deux personnes. Mais nous avons beaucoup de mal à nous représenter des relations trinitaires. Nous avons toujours tendance à les ramener au chiffre 2. D'où la difficulté devant laquelle se sont trouvés les premiers théologiens de la Trinité pour essayer d'illustrer le mystère par des comparaisons empruntées à l'expérience humaine. Dans le vocabulaire théologique, on appelle cela des analogies trinitaires. Un grand théologien du IIIe siècle, Tertullien, avait essayé de trouver des analogies empruntées à la création. Il disait que Dieu le Père avait produit sa parole, le Fils, je cite, « comme la racine produit la tige, la source le fleuve, le soleil son rayon ». Et il ajoutait « je ne craindrai donc pas de comparer le Fils à la tige qui vient de la racine, au fleuve qui dérive de la source, au rayon que projette le soleil. Et puisque la tige n'est pas séparée de sa racine, ni le fleuve de sa source, ni le rayon du soleil, la parole ne l'est pas non plus de Dieu. » Fin de citation. Il en déduisait que le Père et le Fils étaient deux, mais indivisibles, comme la racine et la tige, la source et le fleuve, le soleil et son rayon. Quant à l'Esprit-Saint, Tertullien en faisait, je cite, « le troisième après Dieu et le Fils, comme le fruit que produit la tige est troisième, tout en venant de la racine. Troisième comme le ruisseau qui dérive du fleuve, mais qui vient de la source. Troisième comme la pointe du rayon, par rapport au rayon et au soleil. » La tentative de Tertullien était ingénieuse, car compréhensible par tous, dans une civilisation proche de la nature, comme l'était la civilisation antique. On peut ainsi s'imaginer, je cite, « le fruit savoureux du Saint-Esprit cueilli sur la branche du Fils, nourri par la racine, le Père, origine de toute vie. » On peut aussi voir que le Saint-Esprit provient du Père par le Fils, comme le fruit provient de la racine par la branche. Et aussi qu'il n'y a pas de quatrième personne après lui, de même qu'il n'y a pas de production supplémentaire de l'arbre fruitier. Il existe pour produire des fruits et rien d'autre. On peut voir enfin que la tige et le fruit sont par rapport à l'arbre dans une relation de dépendance, comme le Fils et l'Esprit par rapport au Père. Mais on sent bien qu'on en est encore au balbutiement de la théologie de la Trinité. Car les trois éléments qui symbolisent les trois personnes apparaissent ici comme séparables les uns des autres. Comme le dit le proverbe, « comparaison n'est pas raison ». Près de deux siècles après Tertullien, saint Grégoire de Nazianze, ce père cappadocien que nous avons déjà rencontré, a essayé d'explorer une autre voie, celle de la famille humaine. Partant de la Bible, il réfléchit sur le couple d'Adam et Ève et sur leur troisième fils qui s'appelle Seth. Il écrit « Adam a été façonné par Dieu, Ève prélevée sur Adam et Seth engendré par Adam et Ève. Et les trois, tout en étant venus à l'existence de trois manières différentes, sont pourtant de la même substance humaine. » On voit tout de suite la supériorité de cette analogie par rapport aux images végétales de Tertullien. L'homme et la femme sont, toujours d'après la Bible, créés à l'image de Dieu. La relation qui les unit est une relation d'amour, comme celle du Père et du Fils. L'image conjugale est donc beaucoup plus adaptée que l'image végétale pour parler de la Trinité. Il y a pourtant là aussi un danger et un problème. Le danger, puisque la relation de l'homme et de la femme est une relation sexuée, serait de renouer avec les schémas païens d'une sexualité en Dieu. Or, nous avons vu que le premier souci de la Bible avait été de souligner, contre les cultes païens, que la sexualité n'est pas divine, mais créée. Voilà pour le danger. Quant au problème, il est plus directement d'ordre théologique. Le couple humain existent avant de mettre l'enfant au monde. L'homme et la femme sont antérieurs à leur enfant. Ils n'ont pas toujours été parents, alors que Dieu a toujours été père et que le Fils a toujours existé. En voulant illustrer la foi en la Trinité, on part donc d'une dualité, celle de l'homme et de la femme, pour lui rajouter un troisième élément censé figurer ce troisième en Dieu qui est l'Esprit. On voit là encore combien notre pensée est binaire et combien il nous est difficile de penser de manière vraiment trinitaire. Une vingtaine d'années après Grégoire de Nazianze, c'est au tour de notre grand auteur latin saint Augustin de s'atteler à la rédaction d'un traité sur la Trinité. Saint Augustin a examiné l'analogie familiale illustrée par son prédécesseur cappadocien, mais il l'a finalement rejetée parce qu'il l'a trouvée trop matérielle et surtout parce qu'il considérait que l'image du Dieu Trinité avait son siège dans chaque personne humaine et pas seulement dans les relations qui unissent les personnes. Voici ce qu'il écrit. « Quand nous disons que l'être humain a été fait à l'image de la Trinité souveraine, c'est-à-dire à l'image de Dieu, nous ne devons pas comprendre que cette image réside dans un groupe de trois êtres humains. » Alors si elle n'est pas dans un groupe, où est-elle donc ? Saint Augustin répond « dans l'âme humaine ». Ainsi donc, saint Augustin, suivi plus tard par saint Thomas d'Aquin, choisira de situer la ressemblance avec la Trinité au-dedans de l'homme, c'est-à-dire dans les facultés de son âme. Et la parole de l'Écriture sur laquelle il prend appui est celle de la création au livre de la Genèse « Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance ». Ayant trouvé ce filon, saint Augustin va l'exploiter de manière convaincante. Après être parti de la Trinité de celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour qui les unit, il affine sa conception en considérant la Trinité qui est à l'intérieur de notre esprit, notre mémoire, qui est la connaissance que nous avons de nous-mêmes, mais aussi notre souvenir de Dieu, notre intelligence, qui est notre réflexion sur nous-mêmes, mais aussi notre connaissance de Dieu, et enfin notre volonté, qui est notre amour de nous-mêmes, mais aussi notre désir de Dieu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette analogie, qui nous est tout intérieure, sauvegarde l'unité de Dieu et ne risque pas de faire des trois personnes trois sujets distincts et séparés. Saint Augustin le dit d'ailleurs explicitement, je cite, « Quand l'âme se connaît et s'aime, ces trois réalités, âme, connaissance, amour, restent une trinité et il n'y a ni mélange ni confusion. Chacune est en soi et cependant elles sont mutuellement chacune tout entière dans les autres, chacune dans les deux autres ou les deux autres en chacune d'elles, et ainsi toutes en toutes. » Saint Augustin ne se fait pas d'illusions sur les limites de sa trouvaille. En effet, l'image de Dieu dans l'esprit de l'homme reste lointaine et imparfaite. Et surtout, alors que dans la Trinité, les trois sont des personnes distinctes les unes des autres, dans l'âme humaine, les trois facultés ne sont que des capacités de notre esprit. Le danger, alors, n'est pas de faire des trois personnes trois sujets séparés, mais au contraire de les rapprocher au point de les confondre, même si saint Augustin s'en défend. Reste une analogie de la Trinité que saint Augustin a également explorée et qui, je l'avoue, a de très loin ma préférence. C'est celle de l'amour fraternel qui unit entre eux les membres de l'Église. Ici, la référence n'est plus le récit de la création aux origines, mais cet embryon de création nouvelle qu'est la communauté chrétienne telle qu'elle nous est décrite au début des Actes des Apôtres. Je cite, « Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et une seule âme, personne ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. » Ça se trouve en acte 2 et s'est renouvelé en acte 4. Cette analogie d'un seul cœur et une seule âme, c'est l'analogie ecclésiale. quand l'Église est vraiment l'Église, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire quand l'Esprit-Saint est vraiment au centre de sa vie et de son agir, elle est l'image la plus expressive en ce monde de la communion trinitaire. À cela, dit Jésus, tous vous reconnaîtront pour mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jean chapitre 13. Et toujours Jésus dans sa prière, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean chapitre 17. On remarquera cependant que cette prière de Jésus n'est pas un indicatif, car elle exprime un souhait, ou pour mieux dire, une supplication. Alors que les personnes trinitaires sont un depuis toujours, Jésus implore son Père que nous-mêmes soyons un, et nous ne savons que trop que cette unité est encore devant nous. En effet, elle ne dépend pas que de Dieu, elle dépend aussi de nous et de la manière dont nous accueillons l'esprit d'unité, qui est l'esprit du Père et du Fils. Laissons la parole pour finir à saint Augustin. « Je vois la charité et je crois à la parole de l'Écriture, Dieu est charité, qui demeure dans la charité, demeure en Dieu. » Mais tu dis, « Quand je vois la charité, je ne vois pas la Trinité. » Eh bien si, tu vois la Trinité quand tu vois la charité. L'apôtre Paul montre que cette charité fraternelle, car la charité fraternelle est celle qui nous fait nous aimer les uns les autres, non seulement vient de Dieu, mais qu'elle est Dieu. Par conséquent, en aimant notre frère selon l'amour, nous aimons notre frère selon Dieu. Il nous appartient donc, tâche terrible et magnifique, d'être des manifestations, des épiphanies du Dieu Trinité dans ce monde, dans la mesure où nous vivons la charité.